Ceci est une présentation que j'ai donnée sur un cours en miracle sur le thème « Le pardon comme voie thérapeutique » lors du Salon de bien-être à Sarlat en octobre 2019. Si le thème pour cette conférence était le pardon comme voie thérapeutique, le but de cette conférence était de parler généralement de la vision métaphysique d'un cours en miracle et surtout de son processus de guérison de l'esprit. Ici, j'ai divisé en 5 étapes. 5 étapes de prise de conscience du fonctionnement de l'esprit et de ce que nous pouvons faire pour regagner une vision claire de la nature, de la réalité sous-jacente à notre perception ordinaire, une perception de ce monde comme un monde de dualité, de division et de conflit. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Bernard Groom. Je suis australien ou maintenant franco-australien. J'ai eu le grand plaisir d'avoir ma naturalisation l'année dernière. Donc, bah voilà. Mais je garde l'accent, justement, pour. Pour... Non, ils n'ont pas pu me transférer l'accent bien français et peut-être même du sud-ouest, j'aurais aimé, mais bon, ça s'est pas venu avec. Ouais. Donc, je présente mon sujet. Je suis conférencier et formateur et enseignant de ce sujet un peu ésotérique qui s'appelle « Un cours en miracle ». Donc, le but de cette petite présentation maintenant, c'est de vous parler de ce que c'est déjà « Un cours en miracle », de sa vision d'un côté métaphysique de l'existence du monde et aussi sa vision de notre bien-être, du bien-être et aussi de la guérison de notre condition d'humanité, parce que on n'a pas besoin d'être très perspicace pour savoir que l'humanité ne va pas très bien. Il y a un mal-être, il y a quelque chose qui se passe et il y a beaucoup de différentes théories qui expliquent la nature de cette difficulté, de ce mal-être, et un cours en miracle a sa propre façon de l'expliquer. Qu'est-ce que c'est un cours en miracle? Tout d'abord, c'est juste un livre. Voilà. C'est un livre qui a été écrit ou plutôt canalisé par voie de dictée, c'est-à-dire que cette dame qui s'appelle Ellen Schuckman, elle était docteur en psychologie travaillant pour un hôpital prestigieux aux États-Unis, et elle a entendu cette voix lui dire « S'il te plaît, ceci est un cours en miracle, prends des notes, prends note. » Tout affolé, elle en a parlé avec son supérieur, le directeur de la faculté, qui heureusement, lui, il avait un peu de connaissances à cette époque, il y a longtemps maintenant, en 1972. Attendez voir. Non, c'est la fini de l'écrire en 1972. Il a commencé à l'entendre, la voir, en 1965. Lui, Bill Thetford, son supérieur, heureusement, elle avait un peu de connaissances de ses voix désincarnées, puisqu'il avait suivi l'histoire d'Edgar Cayce. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'était une grande médium thérapeute dans les années 30, 40, 50 aux États-Unis. Donc il a dit, on ne sait pas si tu deviens schizophrène, parce qu'elle avait cette peur, puisqu'elle connaissait très bien l'esprit. Elle a dit, c'est pas normal d'entendre les voix, et elle pensait qu'elle devenait un peu folle. Il a dit, bah, attendez voir, il y a aussi ce qu'on appelle les expériences mystiques, spirituelles. Peut-être c'est de cet ordre-là. Il lui a conseillé d'écrire, de noter ce que cette voix voulait lui dire, et ils allaient voir le lendemain matin la qualité de cette transmission. Elle a pris des notes, elle est allée dans son bureau le lendemain matin, ils ont fermé les rideaux et ils ont regardé ces notes tous les deux et ils ont été époustouflés de voir la qualité et la sagesse dans ces écrits. Donc ils ont décidé de continuer l'expérience qui a duré 7 ans, le temps d'écrire ce grand tome qui a été publié 3 ans plus tard en 1975, et depuis cette date il s'est vendu à plus de 2 millions de copies dans le monde entier en 19 langues, je pense, maintenant. Le livre par contre est assez méconnu en France, d'où mon travail d'essayer d'en parler, de le présenter au monde francophone, du moins. Moi, j'ai pris connaissance de ce livre quand je travaillais à New York en 1987. Je suis venu en France en 88, il m'a suivi dans la valise et je ne l'ai pas quitté depuis. J'ai l'impression qu'il m'était destiné, voilà, la première fois que je l'ai eu dans les mains. En fait, à cette époque-là, je travaillais, je venais de terminer la fac et j'étais embauché, mon premier travail à la sortie de la faculté, c'était en tant que Golden Boy sur Wall Street. J'étais embauché pour travailler avec des banques d'investissement. J'ai eu une offre d'emploi avec Goldman Sachs et une autre avec JP Morgan. J'étais terriblement malheureux. Je ne savais pas l'erreur que j'avais fait. Je ne savais pas comment j'ai pu tellement mal me guider de l'intérieur, d'avoir travaillé aussi dur pour arriver à cet endroit, une sorte de prison dorée, où je pouvais être si malheureux. Je cherchais de l'aide. Je m'étais assis dans un café sur Broadway avec un livre qui s'appelle « La nature de la réalité personnelle » quand deux personnes sont venues à ma table pour me dire qu'on avait très envie de vous dire que si vous aimez ce livre-là dans vos mains, vous allez sûrement aussi aimer le livre qui s'appelle « Un cours en miracle ». Voilà. Et j'avais vraiment cette forte impression à ce moment-là. Il m'avait donné une information très importante. Je suis allé acheter ce livre, effectivement. Voilà. J'avais l'impression de le comprendre, de le saisir, et d'être tellement enrichi par cette lecture que je l'ai continué depuis. J'ai étudié avec le professeur docteur en psychologie qui, lui, était connu par la suite comme l'enseignant principal d'Un grand miracle, donc Kenneth Wapnick, qui avait son propre centre de formation à New York. J'ai travaillé avec lui. Et je lui ai dit qu'un jour, j'aimerais bien faire votre travail. Et il a dit, bon, on verra ça dans quelques décennies. Et voilà, effectivement, deux décennies plus tard, j'arrive à offrir son travail. J'ai le grand plaisir maintenant, justement, offrir les conférences et les stages sur ce sujet. J'ai aussi un site web assez complet, ce que nous avons, ma femme et moi, nous avons une association qui organise ces activités et qui présente aussi ce site web qui est assez complet avec presque toutes les informations qu'il vous faudrait pour faire déjà une première démarche pour comprendre cette œuvre, la philosophie, la structure métaphysique et la pratique. C'est assez complexe, 1200 pages, c'est assez dense, et c'est pour cette raison-là aussi que certains auteurs ont écrit des livres sur le cours pour le synthétiser, le restituer dans un autre langage ou dans une autre forme plus cartésienne, on peut dire. Mon idée personnelle, c'est que j'avais envie aussi d'écrire un livre, mais je voulais bifurquer le mental et je voulais parler directement à l'âme ou au cœur. Et donc, moi, j'ai écrit un roman initiatique sur un grand miracle que je viens de sortir il y a un mois, qui s'appelle « La porte secrète ». L'histoire d'un jeune homme enfermé dans une ville médiévale, une sorte de forteresse, entourée par un mur de défense. Le mur de défense, c'est la défense autour de notre petit soi. Tout le monde lui dit de ne pas franchir cette défense, puisque de l'autre côté du mur, on trouve que des démons, des ennemis et des créatures féroces. Il ne faut pas aller au-delà des limites du petit soi. Qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver que du bonheur, bien sûr, mais quelque chose en nous empêche d'y aller vers cet endroit que, dans le livre, j'appelle le royaume du bonheur, le royaume de la lumière, et dans la vie réelle, j'appelle le grand soi. Le grand soi comme une représentation de notre propre réalité. Donc, il décide de faire le rebelle et crée une brèche dans le mur et il découvre cette vie magnifique de l'autre côté, un monde inondé de soleil et de lumière. Et là, il fait la rencontre d'un vieux sage, Zéphiro, qui est une sorte de magicien et qui entreprend à lui apprendre à petit Paolo tous les secrets qu'il faut pour qu'il puisse retourner dans la ville, là où il était, au marché, et commencer ce processus de transformation dans son esprit pour qu'il puisse voir que la lumière qu'il voit à l'extérieur se trouve également à l'intérieur, dans le monde du petit soi. Mais il faut qu'il fasse une certaine transformation. Il faut qu'il voie son monde différemment. Au lieu d'être embêté par les autres commerçants, embêté par les clients et de vivre aussi mal qu'il le vivait sa famille à la maison, plutôt sa maman, il devait voir que ce qui l'embêtait le plus et ce qui le contrariait n'est pas ce qui se passait dans son monde, mais sa façon de voir son monde, ses interprétations et ses perceptions. Il devait apprendre d'où venaient ses interprétations, d'où venait sa perception de son monde. Qui est-ce qui était là constamment en train d'alimenter sa vision, sa perception du monde extérieur, qui faisait en sorte qu'il interprétait son monde pour qu'il ait l'impression de subir l'extérieur au lieu de le vivre tranquillement et paisiblement. Ça, c'est la petite histoire de ce livre. Maintenant, mon objectif pour cette conférence, c'est d'expliquer le processus de guérison que Paulo il a vécu en utilisant la méthode du pardon. Le cours miracle parle du pardon comme la méthode de guérison, et pour une raison. Ce n'est pas évident, c'est-à-dire le pardon est devenu un petit peu à la mode depuis un certain temps avec l'Oponopono. Un cours miracle n'utilise pas le pardon tout à fait de la même façon. Il nous raconte une histoire, tout d'abord, un événement dramatique qui s'est produit dans la vie de chacun, et que par la suite, avec le vécu de cette expérience très difficile, tout le monde pense avoir quelque chose à pardonner. Suite à cet événement dramatique, tout le monde pense avoir quelque chose à pardonner. Et voilà, mon but, c'est d'expliquer ce que c'est, cette histoire dramatique, et comment le pardon résout cette difficulté ou cette douleur. Pourquoi le pardon est une voie thérapeutique, bien au-delà de peut-être ce qu'on peut imaginer. Tout commence avec une idée d'une réalité, avec un R majuscule, une unité avec une U majuscule, ou peut-être avec cinq lettres majuscules, quelque chose au-delà de ce monde même, une dimension en dehors du temps et de l'espace. Le genre de dimension même dont les scientifiques parlent quand ils nous présentent les conclusions de la physique quantique, quand ils nous disent il y a quelque chose d'extrêmement mystérieux qui est en train de se passer dans le fond de l'existence que nous ne comprenons pas encore, mais la matière se manifeste devant nous à l'instant qu'il y a un observateur. Quelque chose est en train d'observer pour que la matière se produise devant nous. C'est quoi cette quelque chose? C'est quelque chose est en dehors du temps et de l'espace. Parce que c'est toujours en train de se produire, même quand quelqu'un n'est pas en train de regarder, ce monde existe. Ils n'ont pas encore cerné ce que c'est. Que l'une des choses que j'adore avec cette philosophie, c'est qu'il explique beaucoup de choses qui sont restées en suspens depuis la découverte de la physique quantique. La physique quantique nous a appris qu'il y a des choses très mystérieuses qui se passent, mais qui ne nous ont pas expliqué comment ce monde se produit devant nous, comment il peut avoir une sorte de dimension en dehors du temps et l'espace, et surtout comment cela peut se traduire en un moyen de se guérir. Et voilà ce que ce livre nous permet de faire. Parce qu'il nous explique que si la réalité est cette dimension en dehors du temps et de l'espace qu'on peut appeler unité, que d'autres personnes peuvent aussi appeler Dieu, l'univers, la mère céleste, il y a beaucoup de différents symboles, même archétypes qui parlent de cette magnifique dimension, il s'est produit une sorte de séparation d'avec cet état. À un moment, nous avons tous eu l'impression de ne plus faire partie de ce monde extraordinaire, ce monde lumineux, ce monde resplendissant de bonté, de grâce et de beauté. Chacun a l'impression de s'être séparé de ce monde. Et c'est à cet instant-là qu'il se produit un mal-être, une tension, une difficulté dans l'esprit de chacun. Donc, pour donner une explication plus simple de l'ensemble de cette philosophie, nous pouvons dire que le mal-être dans l'humanité est l'acceptation d'une séparation inexistante avec une unité sous-jacente. Nous avons accepté une idée d'une séparation, de cette magnifique unité qui est là quelque part autour de nous à chaque instant, mais une séparation qui n'existe pas. Le problème, c'est que nous insistons dessus, nous insistons sur cette séparation comme si elle est réelle. Chacun pense quand même quelque part qu'il est la personne qu'il pense être. Je me regarde dans le miroir le matin et je pense savoir qui je suis. Je donne un nom à cette personne. Ça ne me semble pas étrange. Or, à chaque instant que j'insiste que je suis cette personne dans le miroir et que je ne suis que ça, je suis en train d'oublier un aspect de la réalité qui est extrêmement important. C'est que je ne suis pas que ça. Je ne suis pas que la capsule de chair et d'os que je vois devant moi. Je suis aussi esprit. Et cet esprit-là est joint intimement dans cette magnifique unité. Mais j'oublie ce lien ou cette appartenance. Et le prix que je paye, c'est ce sentiment de mal-être. Je ne peux pas nier ce que je suis véritablement et me sentir bien. On ne peut pas nier sa propre réalité et penser qu'on allait se sentir bien après. C'est ce que je fais chaque matin que je me lève et je dis, non, tu n'es que ça. Bernard, en l'occurrence, c'est moi. Voilà. Et plus j'arrive à me souvenir de ce que je suis, plus je vais pouvoir diminuer ce sentiment de mal-être parce que je vais aligner ma pensée avec la réalité. Si je contredis la réalité, cette unité ou cette façon d'appartenir à autre chose, je vais continuer à produire ce sentiment de mal-être. Je vais consenter, dans un sens, à vivre un mal-être, un sentiment de mal-être à un niveau parfois très bas, c'est-à-dire que je ne suis pas toujours conscient que tout va pas parfaitement bien. Mais comme on lit dans un cours en miracle, si nous ne ressentons pas les bienfaits de la réalité, ce sentiment de sécurité, de grâce, de beauté et de bonté, même ici, nous pouvons imaginer à ce moment-là que nous sommes en train de vivre une condition de mal-être, parce que le seul bien-être, le vrai bien-être, c'est son sentiment d'unité avec la magnifique réalité. Si je ressens quelque chose moins que ça, on peut parler d'un sentiment de moins bien-être, de moins être. Qu'est-ce qu'on peut dire? On n'exploite pas du tout le potentiel de ce que nous pouvons ressentir. Donc là, je vous ai donné un peu le topo très général entre une unité, une idée d'un être séparé, une sorte de tension entre les deux. Tant que je me définis comme quelque chose qui n'appartient plus à cette magnifique unité. Le problème là, c'est que c'est pas simplement un sentiment de mal-être. Quand je me définis en tant que moi-même et je me sens séparé de cette magnifique unité, j'ai l'impression d'avoir agressé ou attaqué l'unité. Comme si l'unité est une sorte d'être maintenant qu'on peut appeler Dieu. Si je me définis en tant que moi-même et purement en tant que moi-même, j'ai l'impression d'avoir réduit l'intégralité ou la totalité de Dieu en quelque chose qui n'est plus, qui est moins parfait que ce que c'était avant. C'est-à-dire, j'intègre mon petit soi, non pas simplement avec un sentiment de mal-être, mais aussi avec un sentiment de culpabilité, un sentiment d'avoir fait mal, d'avoir attaqué la réalité. J'ai attaqué ma propre réalité, j'ai attaqué la réalité elle-même. Or, je veux soutenir, c'est très important, cette attaque ne s'est jamais produite parce que l'unité est toujours intacte. L'unité, c'est un magnifique état de bonté et de beauté, toujours intact à chaque instant. C'est moi qui refuse de l'admettre. Et je préfère payer le prix du mal-être, et je préfère payer le prix même de cette culpabilité et ce sentiment de mal-être, ce sentiment de crime ou d'avoir attaqué et agressé la réalité. Pourquoi ? Parce que cela me permet de continuer à vivre ma petite vie de petit soi, tout en prétendant qu'il n'y a pas un vrai problème. Je peux continuer à vivre ma petite vie de moi-même et je vais essayer de me satisfaire, me rendre heureux, parce qu'effectivement, je me lève, ce n'est pas tous les jours que je me sens vraiment très, très en forme. je me sens plus uni avec une magnifique présence. Non, non, ça c'est, je l'ai balayé déjà depuis un moment. Je l'ai balayé sous un tapis. Je veux même pas savoir qu'à côté de moi, il y a des présences symboliques. D'êtres qu'on peut appeler les anges si on veut, ou on peut appeler des présences spirituelles qui essayent de me rappeler, tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi autre chose. C'est comme si tous les matins je me lève, je me regarde dans la glace et je dis, je t'entends pas, je vous entends pas, il n'y a personne à côté de moi, il n'y a personne là. Je suis l'univers, je suis moi-même, je suis le seul être qui compte. Oui d'accord, il y a ces autres personnes là-bas. Et ils sont utiles pour moi dans la mesure que je peux me servir d'eux pour qu'ils puissent me satisfaire, voilà, pour qu'ils puissent me rendre heureux dans mon petit soi. Parce que je me lève ce matin, je me sens séparé, oui, mais bon, je préfère rester séparé, être séparé. D'accord, il faut que je fasse quelque chose avec ce sentiment de mal-être, hein, ce sentiment de culpabilité. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne veux certainement pas accepter cette vérité d'une unité, une unité fabuleuse qui va résoudre vraiment le mal-être à l'origine. Je ne veux pas revenir en arrière et remettre en question le problème de départ. Je ne veux pas faire ça. Non, je veux me satisfaire et trouver ma satisfaction de bonheur dans le monde de la séparation. Et c'est là où les choses deviennent très très compliquées. Parce que si je sors de ma maison, je prends ma voiture et je me faufile dans le monde, je vais faire les courses, je vais au travail, et je traîne avec moi quelques casseroles, les casseroles sont bien pleines maintenant, un sentiment de mal-être, un sentiment d'insatisfaction, un sentiment de culpabilité, un sentiment d'avoir agressé, une sorte d'être divin. Je vais devoir faire quelque chose avec tout ceci. Tous les jours, je vais essayer de soulager ma peine. Donc, je vais essayer de trouver les choses ou les relations qui vont soulager cette peine. Mais de l'autre côté, avec mon sentiment d'avoir attaqué quelque chose, je ne suis pas du tout bien avec ça. Je ne suis pas du tout confortable avec ce sentiment de mal-être, culpabilité, l'idée que j'ai fait peut-être quelque chose. Je ne sais pas si vous n'avez jamais songé en vous de comprendre l'origine de ce petit sentiment de culpabilité ou de honte qui peut nous rôder quelque part dans l'esprit, qu'on ne semble pas forcément à l'auteur, on ne semble pas forcément méritant. On a l'impression même que peut-être quand le téléphone sonne, on est un peu méfiant. Qui est-ce qui peut m'appeler? Est-ce qu'on regarde les gens avec gentillesse ou est-ce qu'on se méfie des gens comme si ils veulent me faire mal? Ils veulent me faire du mal. Comme si ma position dans la vie, ma façon que je me présente ou la façon dont j'imagine que les gens ils vont m'aborder, c'est avec agression. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense que les gens vont naturellement vouloir m'agresser? Selon cette philosophie, c'est parce que je me suis levé le matin, j'ai dit non à la présence de l'unité, je me suis coincé dans l'individualité, ce qu'on appelle aussi l'ego, ou le petit soi. Le prix que j'ai payé, c'est cette idée d'avoir agressé ou attaqué la réalité, et par la suite, je refuse d'en prendre responsabilité. Je ne veux pas le remettre en question. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est sûrement la faute des autres si je me sens comme ça. Si je me sens aussi mal que ça, c'est pas... lui, il veut m'agresser. C'est-à-dire, je fais une projection sur les autres de mon propre mal-être. Ce n'est pas les autres, forcément, qui veulent m'agresser chaque fois que quelqu'un veut m'aborder dans la rue pour me demander une direction, ou me demander l'heure, ou autre chose. Pourtant, la personne a l'air bien correcte et tout ça. C'est parce que je suis en train de faire une projection sur l'autre de ma méfiance envers l'unité ou envers ces autres différentes présences, comme s'ils veulent me faire du mal. Le mal que je pense que ces êtres veulent me faire, je pense qu'ils veulent prendre ma petite vie. Je pense mon petit soi. Je pense qu'ils veulent s'accaparer de mon petit être. Parce que je sais quelque part que je suis un imposteur. Mon petit soi est un imposteur. Un imposteur parce qu'il prétend d'être séparé d'une unité qui l'entoure. Chaque fois que je me présente, je présente dans ma tête, je présente aux autres, je me présente comme quelque chose qui est dans son propre monde, qui a sa propre existence indépendante du tout, quelque part j'insiste sur ce point-là, de séparation, qu'il y a plus de lien entre moi et les autres, et cela va me remplir d'un sentiment d'agressivité, parce que je contredis la réalité, je n'accepte pas la responsabilité pour, et je vais mettre cette agressivité sur le compte des autres et dire « regarde ce qu'ils m'ont fait ». Si je me sens aussi agressif comme ça, c'est pas ma faute. Regarde ce que j'ai vécu pendant mon enfance, regarde ce que j'ai vécu pendant mon adolescence, à l'école, à la fac, au travail, avec mon entourage, avec mes différents parents, avec mes frères et sœurs. Cela ne veut jamais dire que tout le monde a été gentil avec nous. Ce que nous essayons de voir ici, c'est pourquoi est-ce que moi j'ai une perception qui insiste sur le malheur que j'ai subi aux mains des autres. Pourquoi est-ce que j'ai cette sorte de position de départ, de sensibilité, de susceptibilité, de difficulté avec les autres, de méfiance, et aussi de vouloir me servir des autres. Il me donnera ou il ne me donnera pas ce qu'il me faut. Il fera ou il ne fera pas ce que je lui demande de faire. Parce que selon ce qu'il fait, je serai heureux ou malheureux. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pour le petit soi, si je tourne avec avec le petit soi, il va m'expliquer très facilement pourquoi j'ai des besoins de reconnaissance, par exemple. Pourquoi est-ce que je veux que les autres disent « Ah, je sais qui tu es, pourquoi est-ce que ça me fait du bien ?» Pourquoi est-ce que je tourne avec mes besoins de valorisation? J'aime bien quand les gens me disent « Ah, je t'aime bien, t'es vraiment sympa !» J'aime bien quand les autres font ce que je veux qu'ils fassent pour satisfaire mes moindres besoins. Pourquoi? Cette philosophie explique qu'à l'instant que je décide de me séparer de l'unité, je me sépare en même temps de ce milieu d'unité, du monde de l'unité. Et qu'est-ce qu'on vit? Quelle est l'expérience dans ce monde d'unité? C'est un monde déjà de ma propre identité. Ma vérité, telle que je suis, je fais partie de l'unité. Je ne suis pas vraiment que ce petit être ici. Donc il y a identité. J'y ai reconnaissance. Je me sens reconnu. Je sais qui je suis à l'intérieur de l'unité. Dans le petit soi, je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai perdu le vrai sens de ma véritable identité. Si je continue à me définir en tant que moi-même, je me regarde dans le miroir le matin et j'insiste que je sais qui je suis, mais autant que j'insiste, il persiste un doute. Mais tu es sûr que tu n'es que ça? Ça semble pas suffisant de dire que tu n'es que ça, parce qu'après tout, un corps, c'est tellement fragile, c'est tellement petit, un corps, c'est tellement vulnérable, c'est aussi tellement éphémère, c'est tellement mortel. Est-ce que je suis que ça? Des gens peuvent me dire, mais Bernard, tu n'es pas réaliste. Oui, on n'est que ça. Une fois qu'on est mort, il ne reste plus rien. Bon, il y a beaucoup de témoignages qui voudraient indiquer le contraire. Hein, la vie ne s'arrête pas avec le mort du corps, avec le passage du corps. Donc, quand j'insiste que je suis le petit soi, il persiste un doute dans mon esprit que je suis que ce petit soi. C'est parce qu'en réalité, je suis beaucoup plus. Et dans ce milieu, dans ce monde de l'unité, je me sens reconnu. Je sais qui je suis. Autre chose que je vis dans ce magnifique monde d'unité, c'est un sentiment de valeur, de pureté, de beauté, au-delà de ce qu'on peut imaginer. On peut même parler de sainteté ou d'innocence. C'est ça le monde de l'unité. On peut même appeler ça le ciel, dans un langage mythique, bien sûr. C'est ça notre véritable maison ou la véritable condition de cette réalité que nous sommes au fond. Mais sur Terre, ça se passe pas comme ça. Tant que je me sens coincé dans le petit soi, je prends de la distance non pas simplement avec ma véritable identité, ce qui est de la reconnaissance, mais je prends de la distance avec la vraie valeur, avec la vraie innocence, avec ma véritable, la nature de ma condition, c'est que je fais partie de cette magnifique beauté et bonté et grâce et sainteté et pureté. C'est ça que nous sommes dans notre vérité, là. Quand je prends de la distance avec cette identité que je suis là, je me sens tout petit, tout minable, tout sale, plein de noirceur, plein de côtés pas très jolis. Je me sens pas propre. Voilà. Parce que je me suis éloigné, je me suis distancé de la propre pureté que je suis où nous sommes en réalité. Alors, je vais m'embarquer sur une quête infinie de valorisation à l'extérieur. D'où ce besoin, cette quête en chacun d'exiger que les autres l'aiment. Pourquoi est-ce que j'ai aussi autant besoin que les autres m'apprécient ou me reconnaissent? C'est parce que je me sens manquant de reconnaissance, parce que j'ai sacrifié ma véritable, le souvenir de ma véritable identité. Pourquoi est-ce que j'exige que les gens ils m'aiment? C'est parce que je ne me sens pas aimable. J'ai perdu le sentiment de ce être qui m'aime, cet amour avec un A majuscule qui m'aime. Et à ce moment-là, effectivement, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, et je vois un être qui n'a pas l'air à mes yeux aimable. Pas vraiment. Je m'efforce de dire mais si. Je me dis oui, tu es valable, tu es méritant, etc. Mais tant que c'est mon petit soi qui essaie de me convaincre que je suis valable, que je suis méritant, c'est peine perdue, c'est ça l'expression?
Peine
perdue. Peine perdue, ouais. C'est peine perdue. C'est-à-dire, je sais que mon petit soi n'est pas capable de me rassurer assez. Il n'y a qu'un signe de cet autre monde d'unité ou de perfection qui peut me dire oui, absolument, tu vaux quelque chose, tu es tellement, tellement important. Tu as une qualité au-delà de ce que tu peux imaginer, mais je ne peux pas me le dire moi. Il faut que je l'écoute, il faut que je l'entende. Et même quand une autre personne me le dit, je ne peux pas le croire non plus. Parce que moi je dis, mais lui c'est un petit soi aussi, comment il peut me dire ça? Et lui-même il pense qu'il est coupé de cette magnifique source. Donc c'est pour ça que ça c'est jamais satisfaisant. Autant que le proche essaie de nous dire qu'il nous aime, le lendemain on a besoin de le redemander. Est-ce que tu m'aimes aujourd'hui? Est-ce que tu m'aimeras
demain,
le mois prochain, quand je suis vieux? Est-ce que tu m'aimeras pour toujours? Voilà. Et combien est-ce que tu m'aimes? Je veux savoir, mais vraiment, dis-moi. Ce besoin d'aimer vient du simple fait que nous nous sommes coupés nous-mêmes du sentiment d'aimer ou de la source d'être aimé ou d'amour. Quand nous nous disons, quand je me dis, tu n'es que, et tu mets ton prénom, tu n'es que Monique, tu n'es que Jean-Paul. À ce moment-là, si je m'identifie avec mon petit soi, j'ignore ou je me coupe de cet autre que je suis, je sacrifie le souvenir et l'expérience de cet autre que je suis. La dernière qualité que nous, ou une autre qualité que nous connaissons au ciel, dans ce monde béatifique de l'unité, c'est un sentiment de plénitude et de complétude, d'entièreté. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui manque. Tout est là, tout est présent, tout est donné, tout est reçu à chaque instant. Tout est là. On ne connaît même pas le sentiment de manque ou de privation. On ne peut même pas l'imaginer. C'est pour ça que les grands sages, ceux qui sont reconnus comme les véritables sages sur Terre, ils parlent d'un sentiment de plénitude et complétude. Parce qu'ils ont vu au-delà de leur petit soi. Ils ont reconnu cette autre réalité. Ils parlent aussi d'unité. Ils parlent de notre identité au sein de cette unité. Ils parlent de sainteté, ils parlent d'innocence. Toutes les les aspects de cette magnifique unité. Et alors, si je me sens manquant, si je me sépare psychologiquement de cette unité, je vais penser, je vais avoir ressenti qu'il manque quelque chose. Bien sûr, il manque quelque chose, il manque ma propre réalité. Ma réalité, c'est la plénitude. À l'instant que je me coupe de la plénitude, qu'est-ce que je vais ressentir? Ben, le manque, les besoins, le sentiment de privation, d'avoir été privé. Et c'est même pas ma faute, c'est les autres qui me donnent pas ce qu'il me faut. Donc je vais partir sur une quête de satisfaction de mes besoins. Comme si j'arrive à faire aux autres ce que je veux, que ça va me satisfaire. Si j'arrive à avoir assez de bien, assez de belles choses autour de moi, que soudain ça va soulager ce sentiment de manque, ce sort de trou intérieur. Ce que j'ai noté sur le papier ici, ça c'est le genre de choses que j'ai fait pour ce salon du bien-être. Vous êtes la source de tout ce que vous cherchez. Les trois croyances à l'origine de la souffrance. Ce monde me donnera la reconnaissance qu'il me faut. Ce monde me donnera la valorisation qu'il me faut. Ce monde me donnera un jour la satisfaction qu'il me faut. Ça, c'est les trois croyances à l'origine de notre souffrance. Ce monde ne nous donnera jamais ce qu'il nous faut véritablement pour être véritablement heureux et pleinement satisfait. Parce que notre véritable être est bien plus grand que ce monde peut nous donner, ce que les autres peuvent nous donner. Je ne dis pas pour un instant qu'on ne doit pas continuer à chercher, qu'il faut laisser tomber tous nos projets, pas pour un instant. Mais je dis juste que ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien si nous apprenons d'avance qu'il y a une forte chance que nous allons finir par être un peu déçus ou que nous allons, une fois que nous avons gagné, nous avons accompli notre objectif de reconnaissance, de valorisation, de satisfaction, que voilà, on risque de repartir sur notre projet, notre démarche pour trouver encore plus de reconnaissance ou de satisfaction ou de valorisation. Si je ne le trouve plus dans cette relation, alors je vais trouver une autre relation. Si je ne le trouve pas dans ce travail, alors je vais partir et je vais le trouver dans un autre travail. Si je n'aime plus là où j'habite, ça ne me satisfait plus, je n'aime plus les gens, je vais aller ailleurs. Dans une sorte de quête infinie qui ne cesse jamais, pour satisfaire le petit soi dans le monde du petit soi, au lieu de remettre en question le problème au départ, qui est que je me suis défini comme le petit soi et que le petit soi, et peut-être que je suis autre chose. J'ai aussi une autre fiche ici qui définit ça. Le petit soi, ce que j'ai fait ici, j'ai au centre, vous avez le petit soi avec une sorte de mur autour, je vais vous montrer. Et j'ai trois cercles autour. Les trois cercles, je vais le laisser ici, les trois cercles autour, c'est simplement la quête de reconnaissance, de valorisation et de satisfaction. Je vais le laisser sur le bureau là-bas. Je vais vous lire. En haut, le petit soi est composé de ces trois sentiments, ces trois expériences. Les fausses promesses offertes par une identité personnelle et particulière. Il est rempli de cette idée... Voilà, qu'un jour il va accomplir la reconnaissance, suffisamment de reconnaissance de sa petite identité personnelle. Il est dominé par les fausses promesses d'une satisfaction personnelle offerte par le monde. Il est dominé par la pensée, par la fausse promesse de la valeur personnelle offerte par d'autres personnes. Voilà. Or, la réalité est juste à côté de nous et nous offre des dons absolument splendides. Dans la deuxième partie de cette petite fiche que vous trouverez aussi sur mon stand, je dis tout vient de nous, tout ce que nous cherchons est déjà en nous. Les trois vérités qui nous remettront au centre de notre vie, il y a en moi toute la reconnaissance dont j'ai toujours rêvé. Il y a en moi toute la valeur dont j'ai toujours rêvé. Il y a en moi déjà toute la satisfaction dont j'ai toujours rêvé. Nous n'avons qu'à trouver les fausses croyances dans notre esprit et nous confronter à ces fausses croyances chaque fois qu'on les voit, qu'on les observe dans notre esprit. Ah, là encore, je suis en train de me piéger. Là, cette contrariété, là, je sais d'où ça vient. C'est parce que je crois que cette personne doit faire ce que je veux pour que je puisse être heureux. On s'observe de plus en plus, on prend conscience. Ce chemin, c'est juste un chemin de prendre conscience des mensonges que nous avons acceptés et sur lesquels nous insistons tous les jours en essayant de fabriquer une vie qui marche à partir d'une fausse identité. Donc, pour retrouver un peu mon chemin vers le pardon, il n'est pas difficile de voir comment, si je me limite au petit soi, avec ses besoins de reconnaissance, de valorisation, de satisfaction, et si je suis imprégné d'un sentiment de mal-être et de culpabilité d'avoir attaqué, il est très facile de voir comment je vais vivre dans ce monde avec une très grande susceptibilité, un très grand sentiment que les autres sont la source du mal-être en moi, de ce mal-être qui me taraude, qui hante mon esprit. Parce que si j'ai besoin de reconnaissance, valorisation, satisfaction et je ne les ai pas, je vais très facilement retourner vers l'extérieur et dire « Toi, toi et toi, c'est à cause de ce que vous m'avez fait ou vous ne m'avez pas fait. » Et alors, là, on a le champ de blessures pour lesquelles, souvent, on a besoin de faire recours au pardon. Le pardon est l'idée, bien sûr, d'une idée de méthode pour soulager un sentiment de blessure ou de mal-être. Mais un mal-être qui est causé par une autre personne. Hein, c'est pas ma voiture que je vais pardonner. Oui, à la limite, je peux. Mais c'est principalement, on parle d'autres personnes. L'idée du pardon dans la philosophie d'un court miracle, c'est d'apprendre que ce que je pense qu'une autre personne m'a fait, parce que c'est là où on commence tous avec une idée de contrariété. Que ce soit dans mon entourage ou que ce soit même une personne à l'étranger ou même un homme politique dans un autre pays comme les États-Unis par exemple, ou comme en Russie. On peut avoir une contrariété par rapport à ces gens-là. Le cours nous dit il y a besoin de pardon. Pourquoi? Parce que si tu es contrarié, tu es en train de prétendre que cette personne-là a enlevé la paix de l'unité de ton esprit. Tu es en train de dire, tu n'es plus dans l'unité, la paix, tu n'as plus l'unité en toi, tu n'as plus la paix en toi. Et ta façon de l'expliquer, c'est de dire, oui, mais c'est énorme, tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu les infos. Et cette philosophie dit, personne et rien peut enlever la paix de Dieu, ou la paix du ciel, ou la paix de l'unité de ton cœur et de ton esprit. Personne sauf toi. Tu es le seul capable de le faire. Dès l'instant que tu le fais, effectivement, tu seras extrêmement sensible et susceptible. Tu vas se remplir d'un sentiment de mal-être et même de culpabilité, ce qui va te rendre extrêmement sensible à ce qui se passe autour de toi. Et tu vas dire très vite et très facilement, voilà ce qu'il a fait. Lui, c'est lui qui est responsable pour ce mal-être. C'est la projection. Maintenant, nous le faisons tous, tout le temps, d'une façon tellement automatique. C'est effectivement à ce point que nous sommes imprégnés de la normalité de la projection. Chaque fois que je suis contrarié à cause d'eux, ça peut être effectivement ma voiture ou autre, je suis en train de dire, je ne suis plus dans l'amour, dans la paix et dans la joie, et ce n'est pas ma faute. Je suis en train de dire, quelqu'un en dehors de moi a la capacité de m'enlever du centre de ma propre vie. Je suis en train de dire, j'y suis pour rien, je ne suis plus dans l'unité, je ne suis plus dans l'amour, quelqu'un m'a foutu ici sur terre dans ce corps, voilà, pour parler grossièrement. Voilà. Je cherchais comment éviter de parler grossièrement et j'ai pas trouvé. Donc, voilà, c'est sorti comme ça. quelqu'un en dehors de moi est responsable. Et le cours va nous apprendre, là c'est une opportunité parfaite, parfaite pour reconnaître l'erreur et le mensonge dans ton esprit. Oui d'accord, l'autre personne n'est pas gentille, on est d'accord. Mais il n'a pas la capacité de te basculer dans le mal-être et de basculer en dehors de ton propre centre, là où tu trouves l'unité parfaite. Il n'a pas la capacité. Je ne dis pas un instant que nous devons nous sentir mal à l'aise si c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait. Moi aussi, nous sommes sur le chemin d'apprendre sur ces conditions fondamentales de bien-être. C'est cette condition fondamentale d'unité, de perfection, de valorisation, d'innocence, de pureté, de complétude et d'entièreté. On est sur le chemin. Donc sur le chemin, nous allons encore faire des erreurs, glisser dans le mensonge, parce que je me sens encore un peu proche de mon petit soi et pas assez proche de mon grand soi. Mais je suis sur le chemin entre le petit soi et le grand soi. Le grand soi qui est notre façon de parler de la partie de nous qui est jointe intimement dans cette unité. J'ai une autre fiche sur le grand soi. J'ai repris exactement le même schéma du petit soi et j'ai simplement remplacé dans les bulles. Bon, le bulle au milieu, c'est le grand soi. Et autour, j'ai noté une identité parfaite dans une unité resplendissante. Ça, c'est l'un des attributs, l'un de nos attributs dans le grand soi. Et vous voyez la ressemblance avec l'unité. Un autre aspect ou attribut, c'est un sentiment de plénitude et de complétude. Et troisièmement, une innocence et une perfection sublime. Voilà. C'est notre réalité. Donc, je suis toujours entre les deux, quelque part. Il y a des jours, je suis vraiment dans le petit soi. Il y a des jours, je me sens beaucoup plus élevé et beaucoup plus proche de la grâce ou la compassion profonde pour les autres. Et après, je vais reglisser. Après, je remonte un petit peu. Et on peut dire que notre, si on essaie de tracer une ligne de notre progrès, ce serait toujours une courbe qui fait comme ça, beaucoup de virages. Une sorte de montagne russe, c'est ça qu'on dit ? Oui. On fait les montagnes russes. On monte un petit peu et on descend. On monte un petit peu, mais toujours en progression vers le haut, systématiquement. Cela ne veut pas dire dans cette vie-là que je vais forcément progresser extrêmement bien. Il y a des gens qui peuvent patiner une vie ou deux. Mais en gros, on s'est donné combien de vies, si on croit en la réincarnation, bien sûr. Ouais. On se donne combien de vies pour monter cette échelle du petit soi vers le grand soi. Je sais pas. Le moins possible. Pas mal. Bon, un certain nombre. Mais la fin est certaine. Est certaine. La fin est garantie. La fin est absolument certaine. On y arrive tous. Il n'y a pas une petite chanson qui dit ça? On ira tous au paradis. Voilà. Oui, il était inspiré. Il était inspiré. Oui, en fait, le coup à sa petite version, c'est que nous y sommes déjà. Ouais. Nous y sommes déjà. C'est moi qui refuse de le reconnaître. Voilà. C'est je refuse. Et dans mon refus, je vais subir ces instants de mal-être que je vais dire c'est la faute des autres, c'est la blessure de celui, c'est l'attaque de l'autre, c'est l'agression, c'est l'insulte, etc. Le pardon dans le cours, c'est la remise en question du problème. Est-ce que c'est vraiment lui qui t'a fait mal? Qui t'a fait mal? Qui t'a fait vraiment mal? Je ne dis pas un instant que les autres sont des grands gentils. Les autres sont des fois aussi méchants que moi. Ils sont déjà aussi, des fois, mais c'est normal, bien sûr, ils sont aussi méchants que moi. Parce qu'eux aussi, ils se sont levés le matin, ils se sont regardés dans le miroir, ils se sont dit, oh, bah tiens, je ne vois aucune unité autour de moi. Donc, plombés dans un sentiment de mal-être, de culpabilité, de manque d'identité. Donc, besoin de reconnaissance, manque de valorisation, donc recherche de valorisation, manque de satisfaction. Donc, bien sûr, il est motivé, comme moi, de chercher autour de lui de façon de se satisfaire et aussi chercher autour de lui une façon d'expulser ce sentiment d'attaque, de mal-être, d'expulser, de projeter cette attaque sur les autres. Mais il n'est jamais en train de m'attaquer vraiment personnellement. Il ne faut pas que je prenne les attaques des autres personnellement. Il est en train d'attaquer une image qu'il a de moi-même. Il ne peut pas connaître ma réalité tant qu'il est dans le petit soi. Il a une idée de moi, tout à fait. Mais l'idée qu'il a formée de moi vient de son petit esprit. Son petit esprit, son petit soi. Ça va de soi. Donc, si l'idée qu'il a de moi vient de la perception de son petit soi, je peux être sûr que ce n'est pas valorisant. Il ne me voit pas bien parce qu'il ne se voit pas bien. Je vois les autres toujours comme l'image de moi-même. Je vois les autres toujours comme l'image de moi-même. Donc j'ai tout intérêt, j'ai un grand intérêt à revoir ma façon que je me vois et à trouver tout ce qui est le plus magnifique et le plus valable et le plus méritant en moi. C'est ainsi que je vais pouvoir commencer à transformer ma perception des autres et ma façon de vivre mes relations avec les autres. Donc le processus du pardon du cours demande d'abord que nous remettons en question la nature du problème et nous dire « pas si vite, tu veux l'accabler de culpabilité pour ce qu'il a fait, mais oui, on veut d'abord comprendre qu'il n'était pas gentil, mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas gentil ?» On veut vraiment comprendre la nature du problème, une prise de conscience de ce qui est vraiment en train de se passer au-delà de l'apparence.
Oui, parce que ça peut être compliqué quand même pour une personne, tu vois, qui mettons une femme qui se fait violer, le pardon, tu vois, c'est quand même quelque chose
là,
t'as... compliqué.
Oui, t'es allé franco là. Oui. Oui, il y a certaines situations qui sont plus compliqués que d'autres, qui nécessitent vraiment qu'on passe plus de temps dessus. Il y a une façon de les voir et de comprendre ce qui se passe au moment de ces grandes rondes dans la vie. Et c'est jamais une question de blâmer la personne pour ce qui lui arrive. C'est jamais une question de lui dire « c'est ta faute ». Si tu t'es fait violer, attaquer, tabasser, insulter, c'est ta faute quelque part. C'est jamais une question de faire ça. Il y a certaines méthodes qui prônent ça ou qui pratiquent ça. Un kumbhaka n'est certainement pas ça. C'est extrêmement culpabilisant, même dégradant, et ça ne donne aucune chance à la personne de se relever. On peut, une fois que la personne qui a subi des agressions aussi violentes a fait un travail tout à fait classique avec un thérapeute classique pour reconstituer un semblant de bien-être ou de moins mal-être, après la personne peut essayer d'aller plus loin pour chercher des causes encore plus profondes de ce qui s'est produit. Mais certainement pas avant d'avoir rétabli un certain niveau d'équilibre psychique. Donc, le pardon nous aide à comprendre notre agresseur. Parce que tant qu'on reste avec une image de notre agresseur comme le bourreau et moi comme la victime, je ne peux plus connaître la paix intérieure. Donc, c'est dans mon intérêt. C'est pas pour pardonner l'autre, c'est pas pour déculper l'autre. C'est pas pour dire qu'il n'a rien fait. C'est pour que moi je puisse connaître à niveau le moyen d'aimer et de connaître l'amour, que je vais essayer de voir mon bourreau autrement, la personne qui m'a fait mal. Que ce soit quelqu'un qui est responsable pour une grande agression, ou que ce soit personne qui a juste m'a fait une queue de poisson sur la route ce matin. Ou ma femme qui a soi-disant oublié, qui n'avait pas envie de faire à manger ce soir, ou vice-versa, c'est moi qui fais à manger. C'est dans mon intérêt d'essayer de voir cette personne différemment pour comprendre les motivations, pour relever ma vision, ma perception, au-delà de la perception ordinaire, pour comprendre le mal-être que nous subissons tous dans le monde du petit soi. Ça, c'est juste la première étape, c'est de savoir ce qui s'est passé vraiment et pourquoi. La deuxième étape, c'est de savoir, de comprendre pourquoi est-ce que j'insiste sur ma perception de la personne. Pourquoi est-ce que je tourne et je tourne et je tourne et je rumine et je ressasse ce problème dans mon esprit des années, des années, des années, des fois après. Parce que ça fait partie maintenant de la topologie de mon petit soi. Mon petit soi s'entoure des expériences, des difficultés et de malheurs pour faire une sorte d'armure, une carapace qui m'enferme dans le petit soi. J'explique mon petit soi, je vis mon petit soi à travers ces différentes expériences difficiles. Et chacun tisse une identité dessous ces points de malheur et de mal-être. Si vous demandiez à qui que ce soit toutes les blessures qu'il a vécues dans la vie, souvent ils n'ont pas trop de problèmes pour les remémoriser et pour les réciter. Pourquoi ? Ça fait partie intime de l'histoire de son petit soi. C'est-à-dire, la deuxième étape, c'est pourquoi est-ce que j'insiste sur cette blessure ? C'est parce que ça sert le but de mon petit soi. Pour m'empêcher de savoir que je peux vivre une magnifique, belle expérience de liberté de cette situation en allant vers mon grand soi si je veux. Mais mon petit soi ne va pas le vouloir parce que le petit soi ne vit plus dans le domaine du grand soi. Et il disparaît. Au moins, il diminue en importance. C'est-à-dire, et il y a des philosophes qui posent cette question, ou des thérapeutes qui posent cette question. Pense à ta souffrance. Pense maintenant à la personne que tu serais sans cette souffrance. Qui est-ce que tu serais sans tes blessures et tes souffrances? Et je pense que c'est une question très intéressante et qui peut nous emmener déjà très loin. Qui est-ce que c'est le moi sans souffrance et sans blessure? Si j'imagine pour un instant que toutes mes blessures du passé peuvent être guéries instantanément, que je peux ressentir un bien-être tellement profond que le passé disparaît en importance, cette personne-là qui pose cette question peut même prendre un petit peu peur. Il peut dire mais je vais disparaître parce que j'aurai plus d'histoire. C'est-à-dire le passé va disparaître en importance parce qu'une bonne partie du passé, en fait, c'est des expériences de limitation, de contraintes, de passages pas très faciles. Si je ne vois que les hauts, les moments hauts, alors je ne me reconnaîtrai plus. Je ne connais pas cette personne. Le petit soi n'y vit pas dans le bonheur du grand soi. Et c'est pour ça que nous résistons ces différentes étapes, de savoir, de vraiment comprendre le bourreau et de vraiment comprendre ma raison de garder le souvenir de la blessure ou du mal-être. Mais la résistance qui m'empêche de le faire, d'aller sur ce chemin, c'est que je me définis avec ces expériences et je me définis aussi extrêmement différent de cette personne. C'est une autre façon de vivre le petit soi, c'est que j'ai besoin de me différencier d'autres personnes. Si le bourreau est aussi souffrant que moi, on est frères et sœurs, on n'est pas différents. Moi, je souffre du mal-être du petit soi, de la séparation, et lui aussi, c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Mais on est pareil. C'est une grande, grande bonne nouvelle pour le grand soi et c'est une terrible nouvelle pour le petit soi. Parce que le petit soi vit à travers un sentiment de différence avec les autres. Donc, deuxième point de résistance. Ainsi de suite, il y a cinq étapes que j'ai définies pour ce processus de pardon. Le troisième, juste pour faire vite, parce qu'il est déjà 6 heures, effectivement. Quelle est la conséquence de ce problème dans ma vie, de cette contrariété? Je dois prendre conscience du prix que je paye pour garder ce problème, pour garder ce souvenir, pour garder ce chagrin, pour garder cette contrariété, pour garder cette relation difficile avec cette personne, pour garder le sentiment de jugement, de condamnation. Je paye un prix très lourd, en fait. Je sacrifie ma joie de vivre, je sacrifie le bonheur. Un sentiment de satisfaction, de plénitude et de bonheur. Je suis prêt à sacrifier tout ça. Pourquoi ? Pour pouvoir dire, c'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Si seulement elle n'avait pas fait ceci, si seulement lui n'avait pas fait cela, je pourrais enfin être heureux. Or, à chaque instant, je peux retrouver ce bonheur. Je peux. Mais tant que j'ai peur du grand soi, de cette unité, je vais rester dans les confins, les limitations du petit soi, et je ne vais pas avancer sur le chemin du, du pardon, ou ce qu'on peut aussi appeler le chemin du lâcher prise du petit soi. Quatrième étape, comment suis-je semblable à celui qui me dérange, à celui qui m'a blessé, celui qui me contrarie? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment est-ce que nous sommes en fait pareils? Là, c'est une très belle étape, extrêmement difficile, et ça peut être très très douloureux aussi, mais tellement tellement transformatrice. De savoir qu'en fait, cette personne-là n'est pas aussi différente que moi.
Ouais, et puis en plus, il y a quand même quelque chose de magique dans ces moments-là. Quand on prend conscience de ça, tout le mal-être disparaît. Enfin, tout le mal-être, il y a un truc qui fait clac,
ouais.
Comme ça, et hop,
oui.
On passe à autre chose.
C'est magique, je ne peux pas l'expliquer. Je l'ai vu dans les visages des gens. Alors, j'ai fait cet exercice régulièrement dans presque tous mes stages. Je fais beaucoup de travail en groupe. Je demande aux gens de penser à quelqu'un qu'ils n'aiment pas et dire comment cette personne est différente d'eux. Là, normalement, c'est très facile. Oh, lui est comme ça, moi, je suis comme ça. Et après, je leur demande de retourner dans le groupe et essayer de trouver. Non, maintenant, essayez d'expliquer aux autres ou trouver ensemble comment vous êtes comme cette personne que vous n'aimez pas. Et là, ça part en live, c'est un peu compliqué. Des fois, ils trouvent et ils sont un peu surpris. Des fois, ils ne trouvent pas. Donc, ils me demandent. Et là, systématiquement, on arrive à trouver. Et des fois, les transformations sont incroyables. Ouais. Tout récemment, il y a quelqu'un qui a un problème avec sa fille, qui prend les drogues, qui n'est pas responsable dans sa vie par rapport aux enfants. Voilà. Donc, c'est les petits-enfants de ces personnes-là. Qui coupe les ponts avec les parents. Donc, les parents ne peuvent même pas l'aider. Ils savent plus comment faire. Et c'est le point de chagrin dans leur vie. J'ai pas pu les aider à savoir comment ils doivent faire pour leur vie. C'est-à-dire comment communiquer avec elle et tout ça. J'ai simplement pu les aider à savoir comment ils contiennent exactement la même problématique que leur fille. Pour savoir pourquoi la fille fait ce qu'elle fait, leur fille fait ce qu'elle fait, qui rapproche leur propre schéma de vie, leur propre dynamique de leur vie à eux. Et soudain, il a compris. Il fait exactement la même chose différemment. C'est pas la même forme. C'est pas le même comportement, mais les mêmes impulsions, les mêmes motivations. Et il a dit, il est exactement comme moi. Et maintenant, je peux comprendre et je peux, au lieu de le critiquer et dire, il est comme ça, il se drogue, il est pas responsable, moi je me drogue pas, moi je suis responsable, et s'éloigner de la famille, moi je veux la prendre dans mes bras. Et j'ai pu montrer que dans d'autres sphères de sa vie, d'autres domaines de sa vie, non, il se drogue. Il se drogue du petit soi. Il se drogue de l'individualité, il se drogue de sa capacité de dire « moi je vis ». Il se drogue de son ego. Il est drogué de l'ego, nous sommes tous les drogués de l'ego. Je vis à travers mon sentiment d'être moi-même, au dépend de l'unité. N'essaye pas d'enlever ma petite identité. J'ai expliqué comment il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable par rapport à son grand soi. Il s'en fout complètement de son grand soi, de son propre bien-être. Si notre bien-être, c'est d'aller lâcher prise sur le petit soi pour avancer et de monter l'échelle vers le grand soi, d'accepter notre véritable réalité, il est particulièrement irresponsable par rapport à son propre bien-être, par rapport au grand soi. Il a vraiment ressenti ça comme une vérité dans sa vie. Et dernièrement, c'était comment lui, il coupe les ponts avec sa famille. Je dis, ça, c'est pas très difficile. Quelle est ta véritable famille? Il commençait à réfléchir, il a dit, tu parles de l'unité. Et je dis, ben oui, ça, c'est ta véritable famille. Tu n'as pas coupé les ponts avec cette unité-là pour t'isoler dans ta petite vie. Maintenant, peut-être ça vous parle un peu, mais lui, ça lui a parlé. Parce que s'il avait projeté sa façon de vivre la séparation, les pics d'un sentiment de drogué, de jugement de drogué, jugement d'irresponsabilité et jugement de couper les ponts avec la famille. Pour lui, c'était des sujets vraiment très très importants. C'est comme si ça, il vivait sa séparation, son petit soi. Quand il a vu que tout ce temps-là, il était en train de critiquer une autre personne pour sa propre disposition intérieure, il était transformé. Ça a pris 3 minutes. C'est juste une information que nous avons dissimulée très très longtemps. c'est une étape vraiment très intéressante. Si je fais un peu vite, je suis désolé. La dernière étape, c'est comment renforcer mon désir de retrouver la paix et la joie de vivre. Comment renforcer mon désir de retrouver la paix et la joie de vivre, ou comment renforcer mon désir de retourner et ouvrir mes bras à mon grand soi et à la réalité autour de moi. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. On présente la méthode ici, c'est de visualiser ou imaginer l'autre être, une présence spirituelle, une présence divine, peut-être un symbole avec lequel vous travaillez ou que vous avez utilisé, qui vous accompagne toute votre vie, ou peut-être c'est une première démarche pour vous dans ce domaine. Donc il va falloir peut-être que vous pensiez à quelqu'un ou quelque chose, peut-être de votre passé, mais il faut que cette présence ne soit pas dans le temps et l'espace, mais en dehors, dans l'autre dimension justement. Ça peut être un ange, ça peut être l'esprit père, ça peut être une grande figure de la spiritualité, ça peut être Bouddha, l'esprit Bouddha, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être Marie. Un être qui peut vous aimer, qui est en dehors du temps et de l'espace et qui vous aime. Et vous commencez à ressentir cet amour comme une source extérieure de ce que vous avez toujours cherché. Et cet amour va vous appeler à aller vers elle. Voilà. Et petit à petit, nous prenons confiance qu'en faisant ces exercices pour nous déloger du petit soi, déraciner du petit soi, nous ne serons pas perdus dans une sorte de néant. Nous allons vers quelque chose qui est réel, qui existe. Et c'est un endroit d'amour absolument magnifique et splendide. Ça, c'est la façon d'un coup en miracle pour utiliser le pardon comme une voie thérapeutique en traitant le problème à la racine, le problème fondamental de notre existence ou la maladie que nous subissons tous, c'est la séparation. C'est une fausse séparation, c'est une idée de séparation, elle n'est pas réelle. Le problème, c'est d'avoir accepté une idée de séparation qui nous a coincés dans une fausse identité, mais une fausse identité à laquelle nous sommes très attachés maintenant. Nous devenons un peu moins attachés quand nous voyons tous les ravages que cet attachement font dans nos vies. Et petit à petit, nous trouvons l'envie d'aller au-delà et de retrouver l'unité qui se trouve ou qui se fait par ce processus de transformation ou de pardon. Vous avez peut-être d'autres choses.
L'importance de se pardonner.
Se pardonner. La compassion, j'ai même pas parlé de compassion, ouais. C'est un chemin de compassion. Un chemin de pardon et de compassion. Le seul pardon véritable, c'est le pardon de soi-même. Pour l'erreur d'avoir accepté une fausse identité. Voilà. C'est le pardon que nous acceptons. Et j'ai essayé de ressentir ce pardon d'avoir fait simplement fausse route en dehors de ma propre réalité. J'ai sacrifié ma force. Je me suis vu petit et faible. J'ai sacrifié la joie. Je me suis vu déprimé et triste. J'ai sacrifié une famille, une magnifique famille. Je me suis vu isolé et exilé. Je me suis fait mal. Et après, quand j'ai dit à mes parents, vous m'avez refusé, vous ne me donnez pas assez d'amour, non. Je sais que je peux le ressentir. Je ne me suis pas donné assez d'amour. Je n'ai pas retourné vers la source de l'amour. Tout est là présent pour nous autour de nous. Il vaut mieux que j'arrête là, parce que vous avez peut-être autre chose à faire. Merci beaucoup.